Si c'est la dernière fois que vous passez devant un tribunal correctionnel, on se retrouve libre.
Bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Tapage sur Canal Sud 92.2, comme tous les deuxièmes jeudis de chaque mois.
Tapage, c'est une émission sur les violences judiciaires, les violences de la justice. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à un type spécifique d'audience, une audience devant le tribunal administratif. En juillet dernier, l'Observatoire international des prisons a présenté une requête contre le ministre de la Justice pour les conditions de détention indignes à la prison de Saïs. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. En avril dernier, il y a la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, Dominique Simoneau, qui est venue à Saïs faire une visite comme elle en a le droit, et qui, à la suite de cette visite, a envoyé un rapport au ministre de la Justice pour lui donner l'occasion de répondre à ses recommandations. Effectivement, cette visite, elle a fait peut-être une petite trentaine de recommandations demandant divers types d'amélioration des conditions de détention, la première de toutes étant la diminution du nombre de matelas au sol, la diminution du nombre de personnes, de cellules où il y a trois personnes en même temps incarcérées, et puis il y a eu beaucoup d'autres choses. Le ministre de la Justice a dédaigné de répondre à ces recommandations, qui ont du coup été publiées en urgence au journal officiel début juillet. À la suite de ça, il y a eu une autre visite, celle du bâtonnier de Toulouse. C'est tout simplement un avocat qui est élu et qui représente les avocats du coin. Et s'appuyant sur ces deux rapports, celui de la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté et celui du bâtonnier de Toulouse, il y a l'Observatoire international des prisons qui a déposé une requête devant le juge administratif pour dénoncer les conditions de détention.
Donc l'OIP, ils ont déposé une requête en référé liberté. Alors qu'est-ce que c'est qu'un référé liberté? En fait, c'est une procédure d'urgence devant le juge administratif. Ça a été mis en place en l'an 2000 dans le cadre d'une loi sur la modernisation de la justice administrative. Et en fait, lorsqu'une liberté fondamentale est menacée de manière grave et immédiate, on peut saisir le juge pour qu'il intervienne sans attendre. Donc normalement, il doit se prononcer très vite, en général sous 48 heures. Alors là, ça n'a pas été le cas, ils ont demandé un délai. Hein. Et s'il constate, le juge administratif, qu'il y a effectivement une atteinte à une liberté, il peut ordonner des mesures immédiates pour la protéger. Donc ça, c'est une procédure administrative qui prend place donc au tribunal administratif dans le cadre de la justice administrative, qui est donc en France celle qui s'occupe des litiges entre les citoyens, on va dire, et l'administration publique, que ce soit les services de l'État, les collectivités locales ou ici donc le ministre de la Justice. Et donc lorsque quelqu'un, que ce soit un particulier ou une association, estime qu'une décision administrative est injuste ou illégale, il peut saisir le tribunal administratif et le juge administratif. Et donc c'est ce qu'a fait l'OIP dans ce cadre-là contre le ministre de la Justice pour les conditions indignes à la prison de Saïs.
D'ailleurs, pourquoi contre le ministre de la Justice? On le rappelle quand même, parce que le ministre de la Justice n'est pas que ministre de la Justice, il est aussi ministre de la Justice et des prisons. Voilà.
Alors concrètement, qu'est-ce que c'était et où c'était? C'était donc au tribunal administratif de Toulouse, qui se situe pas très loin de la gare, en face de la gare, au bord du canal du Midi. Donc on avait face à nous un juge qui ne ressemblait pas à un juge habituel.
Ouais, pas un juge pénal, effectivement, il n'avait pas le costume. Il était tout à fait habillé en civil.
Voilà, comme vous et moi.
Il était tout seul, néanmoins, il était toujours à une estrade. Alors ça, vraiment...
C'est ça, il est toujours en hauteur.
Il est toujours en hauteur. Et face à lui, on avait un groupe d'avocats assez important, donc qui parlait pour l'Observatoire international des prisons, auquel, au passage, on va dire, s'associait le SAF, le Syndicat des avocats de France, et la 3D, l'Association pour la défense des droits des détenus. Et il y avait une dizaine d'avocats, dont le bâtonnier, qui, comme on vient de le dire, avait fait quelques jours auparavant une visite à Saïs. Au cours de laquelle il avait, entre autres choses, parlé avec des prisonniers et des prisonnières de leurs conditions de détention.
Et donc il y avait aussi 5 personnes de l'administration pénitentiaire, dont 2 qui ont parlé, hein, la directrice adjointe et une personne pour la direction interrégionale, et nous dans le public.
Voilà. Et quelques journalistes, parce qu'en fait c'est une audience publique là aussi, n'importe qui peut y aller, peut y assister. On n'a pas eu le résultat tout de suite. Voilà, l'OIP demandait au juge administratif de prononcer un certain nombre d'injonctions, c'est comme ça qu'on appelle. Donc, par exemple, les injonctions étant faire en sorte qu'il y ait moins de cafards, qu'il n'y ait plus de cafards dans la prison de Seyss, faire en sorte qu'il n'y ait plus de rats, réparer les sanitaires, ce genre de décision. Donc le lendemain, on a eu effectivement le résultat de cette audience, c'est-à-dire les injonctions que le juge administratif acceptait de prendre et celles qu'il rejetait. Donc on va rentrer dans les détails de ça plus loin, mais avant de rentrer dans les détails, on va commencer par faire un petit historique à la fois de la construction de la prison de Seyss et à la fois de quelques procédures qu'il y a déjà eu au cours de ces dernières années, parce que notre sujet, c'est celui-là, c'est une administration face à la justice, comment est-ce que ça se passe, et surtout, comment est-ce que ça se passe quand la prison elle-même comparaît devant la justice.
Retour en France avec un déménagement peu ordinaire. 520 détenus sont en train de changer de prison à Toulouse. Le nouvel établissement est situé 20 km plus loin. Le transport devrait avoir lieu dimanche, sous très haute surveillance, bien sûr. Isabelle Delion, Olivier Combes sur place.
Regardez comment on est à 5 là-dedans. Pas d'hygiène. Même si on fait le maximum pour être propre, on peut pas. Même si on fait le maximum, à 5, c'est impossible. C'est pas vivable. Voilà.
Le cinquième n'a pas de lit, il dort par terre. Dans la prison Saint-Michel, 280 places pour 520 prisonniers. En plein centre de Toulouse, un bâtiment du 19e siècle qui a très mal vieilli. C'est sale. Les détenus jettent leurs poubelles par les fenêtres. C'est plein de pigeons le jour, de rats la nuit.
Quand on se trouve dans ces cellules, avec des cafards, des araignées pourries, enfin vous avez vu, quoi, on se croirait dans Midnight Express. Là. On se croirait dans les prisons turques ici. Quoi.
Dimanche, les prisonniers vont avoir l'impression de changer de siècle en découvrant la nouvelle maison d'arrêt de Seyss. Première d'une nouvelle génération, équipement dernier cri, 48 millions d'euros d'investissement, une douche et la télévision dans chaque cellule, un rêve de détenu, pas sûr.
Je pense qu'on verra moins de gens qu'ici aussi.
Ça vous inquiète ?
Ça nous inquiète, c'est bien d'avoir un contact humain quand même.
Un seul prisonnier par cellule, c'est plus de risques de suicide, selon les syndicats de surveillants. Le directeur le sait.
Nous, on détient une population, un concentré de population à problème, et qui effectivement est dans une tranche d'âge avec des problématiques très particulières, que ce soit psychologiques, psychiatriques, qui font qu'il y a un passage à l'acte plus facile. Ceci étant, à nous de les repérer.
Avec un quartier pour les mineurs, un autre pour les femmes, il y aura en tout plus de 700 détenus. C'est, paraît-il, à la mesure des besoins de Toulouse.
Un rêve de détenu, c'est ce qu'on vient d'entendre. Et ce qu'on vient d'entendre, en fait, c'est un reportage qui est passé sur France 2 au moment du déménagement de la prison de Saint-Michel en 2003. Donc, comme on a un peu entendu dans ce petit reportage, la prison de Saint-Michel, elle est vraiment en plein centre-ville. C'est une prison du 19e siècle. Et les 550 prisonniers qui étaient à Saint-Michel ont été emmenés à la prison de Seyss en janvier 2003. Prison de Seyss, par ailleurs, qui est loin de Toulouse, en fait, donc ça a des conséquences très importantes pour leur vie, c'est-à-dire que peut-être leurs proches ont beaucoup plus de difficultés à venir. Là où Saint-Michel est en plein centre-ville, ben pour aller à Seyss, faut une voiture ou alors faut prendre une série de bus.
C'est assez mal desservi.
C'est mal desservi. Du coup, pas à tous les horaires, évidemment, pas tout le temps. Enfin, voilà. Donc ça pose déjà plein de difficultés. Alors ce qui est amusant, c'est que quand Seyss, amusant c'est pas vraiment le mot, mais quand Seyss est ouvert, c'est vraiment un genre de prison modèle. Il y a un article aussi dans Le Monde qui dit bah c'est génial, on dirait un hôtel Formule 1, super, quel confort. Donc au moment du déménagement des détenus, ils sont un par cellule. Cela dit, tout de suite à ce moment-là, en fait, Seyss et toutes les cellules sont immédiatement remplies, donc chacun sait qu'en fait, ça va pas durer le 1 par cellule. Immédiatement, l'année même, ils commencent à mettre des lits superposés et très rapidement, les détenus se retrouvent à 2 par cellule. Et ça continue comme ça jusqu'à la situation qu'on connaît aujourd'hui. Je tiens quand même à préciser qu'à peine une semaine après l'ouverture de Seyss, il y a un premier mouvement de prisonniers qui se plaignent des conditions de détention. En avril de la première année, le nombre de détenus dépasse déjà le nombre de places prévues à Seyss. Et les premiers matelas par terre datent de 2015. Donc matelas par terre, ça veut dire en fait ils étaient déjà 2 par cellule depuis un moment, et donc là, on se retrouve à 3 par cellule dans une prison de 9 mètres carrés. Une situation à Seyss bien connue jusqu'à la situation actuelle où il y a...
322 ouais. Matelas au sol en 2025. Il y en avait 173 en 2021, donc presque un doublement en 4 ans.
Exactement. Et il y a depuis bien longtemps des personnes et des institutions qui dénoncent le fait qu'il y ait trop de gens à Seyss et que les gens soient détenus dans des conditions inacceptables. Donc la première visite de la contrôleuse générale des lieux de privation, alors à l'époque le contrôleur général des lieux de privation de liberté, le CGLPL, date de 2010. Et dès 2010, il fait une trentaine de recommandations, en fait, en termes d'hygiène, d'accès aux activités, d'accès aux soins psychiatriques, etc., etc. Donc là, il y a cette première visite en 2010, il y a une deuxième visite en 2017. Alors ce qui est aussi intéressant dans le rapport de la deuxième visite, c'est qu'en fait, il fait le point un peu sur les 30 recommandations qu'il avait fait passer 7 ans plus tôt. Sur la trentaine de recommandations qui avaient été faites en 2010, il y en a deux pour lesquelles il y a une amélioration de la situation. Il y en a un pour lequel il parle d'un point qui est en cours de rétablissement. Donc ça concernait le fait que les personnes détenues de confession musulmane ne pouvaient pas bénéficier d'un office religieux le vendredi après-midi. Donc en 2010, il dit « ouais, ça va pas, il faut rétablir l'office religieux ». 7 ans plus tard, la réponse de l'administration pénitentiaire, c'est qu'il est en cours de rétablissement, donc c'est quand même un peu spectaculaire. Il y a 7 points inchangés, 7 points dits mitigés, c'est-à-dire ça a un peu amélioré là, mais nettement empiré là, 2 points dégradés et 10 points non renseignés. Le bilan global de ça, globalement, c'est quand même que sur les 30 recommandations qui avaient été faites, il n'y a que 2 points qui sont nettement améliorés par rapport à la visite de 7 ans plus tôt. Il y a une autre visite du CGLPL en 2021 et enfin une dernière visite, une quatrième visite en 2025. Tout ça, en fait, pour dire quand même que le CGLPL, qui est une institution, une administration indépendante créée, il me semble, en 2006 pour pouvoir visiter les lieux de privation de liberté, en fait, alerte depuis très longtemps sur la situation à Seyss. Personne n'en a rien à faire, globalement. Et notamment, enfin, c'est pas que personne n'en a rien à faire. La prison, l'administration pénitentiaire, le ministre de la Justice n'en a rien à faire de ces recommandations. Alors même qu'elles sont le plus officielles possible. C'est-à-dire que dans les 3 derniers cas, ce sont des recommandations qu'on appelle en urgence. C'est-à-dire qu'ils sont quand même publiées au journal officiel. Ce qui est censé, en théorie, mettre la pression au ministre de la Justice. Qu'on a pour autant pas plus à faire qu'en l'absence de recommandations en urgence. Et sinon, il n'y a pas que le CGLPL qui a dénoncé la situation à Seyss dans des rapports. Il y a eu un certain nombre de procédures tout au long de ces années, notamment menées par l'OIP pour essayer de dénoncer les conditions indignes de détention. Donc ne serait-ce que depuis 2021, il y a eu déjà 3 procédures devant le juge administratif. Donc une première procédure en 2021...
Et à l'époque, déjà, le CGLPL, dans la procédure de 2021, dénonce un surenfermement, même s'il ne l'appelle pas comme ça, dans la prison de Seyss, et il dénombre, je crois, 173 matelas au sol. Donc déjà, on tire la sonnette d'alarme, et le juge administratif est alerté sur cet état de suroccupation, comme on dit. Et c'est quoi dès l'époque ? C'est la suroccupation, les nuisibles, des conditions d'hygiène lamentables.
Le manque d'intimité.
Voilà, le manque d'intimité, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de séparation entre les toilettes et le reste de la cellule. Donc il faut quand même s'imaginer que vous êtes à 3 dans cellule, vous allez pisser et chier devant vos co-détenus, idem pour la douche. Et la violence, c'est un des autres marqueurs du CGLPL dès l'époque. C'est-à-dire il y a une violence importante dans cet établissement qui manifestement dont l'administration manifestement ne rend pas compte parce qu'elle ne trace pas tous les événements de violence. Violence aussi bien des détenus envers le personnel pénitentiaire que des détenus entre eux, mais aussi du personnel pénitentiaire envers les détenus. Donc ça, c'est déjà le portrait qui nous est brossé en 2021 par le CGLPL et qui arrive devant le juge.
Et en 2021, donc l'OIP présente à nouveau une requête devant le juge administratif. Le juge administratif prend un certain nombre d'injonctions, c'est-à-dire il prétend obliger le ministre de la Justice à prendre des mesures pour lutter contre à la fois les nuisibles, les rats, les cafards, le manque d'hygiène, les difficultés d'accès aux soins, l'annulation très 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 fréquente des extractions, c'est-à-dire par exemple les détenus qui ont besoin d'aller voir un spécialiste à l'hôpital, tout ça. Et ben, in extremis, cette extraction est annulée par manque de personnel ou par mauvaise volonté du personnel pénitentiaire. Donc le juge des référés prend un certain nombre d'injonctions pour essayer d'obliger la prison de Seyss à mieux faire sur ces différents points. Et ce qui se passera, ce qui se passe systématiquement pour ce type de procédure et ce type d'action, c'est qu'en fait, le ministre de la Justice et la prison de Seyss, l'administration pénitentiaire, quoique enjoint de prendre des mesures, se contentent de ne pas le faire. Ni plus ni moins.
Donc les mesures seront ordonnées, c'est une chose, et de toute façon on verra dans l'affaire qu'on va traiter aujourd'hui, le problème c'est que comment s'assurer qu'elle soit exécutée. Or sur je pense qu'il y avait plus de 20 injonctions qui avaient été ordonnées en 2021. Les retours des personnes détenues et des avocats, c'est que la situation ne s'est pas améliorée. L'OIP demande des comptes à l'administration pénitentiaire en leur écrivant et en leur disant qu'est-ce que vous avez fait ? Qu'est-ce que vous avez fait depuis la décision ? Aucune réponse. Si bien que du coup, ils ressaisissent le juge administratif en réexamen. Pour que le juge administratif constate que les mesures qu'il a ordonnées lui-même n'ont pas été respectées par le ministre de la Justice.
Mais là, à ce moment-là, ce qui est assez frappant, c'est que le juge administratif a considéré que, contrairement à ce que disaient les détenus, contrairement à ce dont témoignait la visite du bâtonnier, contrairement à ce que pouvaient observer les avocats et avocates qui ont l'occasion de rentrer souvent en prison, le juge administratif a trouvé qu'il y avait une nette amélioration. Donc il a jugé que les injonctions étaient dans leur majorité exécutées, dit-il, ou au moins en voie de l'être. Ce qui est en partie mensonger pour un certain nombre de choses, vu que la situation reste inchangée sur pas mal de ces choses.
On en est là quand, en avril dernier, Dominique Simoneau, CGLPL, décide de refaire une visite à l'établissement de Toulouse Seyss. Mais on voit ça tout à l'heure, après un petit morceau de musique.
Hello, I'm Johnny Cash. I hear the train a-coming, it's rolling around a bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train keeps a-rolling on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. I bet there's rich folks eating from a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming, I know I can't be free. But those people keep a moving, and that's what tortures me. If they freed me from this prison, if that railroad train was mine, I bet I'd move it on a little farther down the line. Far from Folsom Prison, that's where I want to stay. And I'd let that lonesome whistle
all my blues away.
Vous êtes toujours à l'écoute de Tapage sur Canal Sud 92.2. Aujourd'hui, on s'intéresse à la prison face à la justice et à une audience qui a eu lieu donc en juillet dernier au tribunal administratif contre la prison de Saïs.
Ce qu'on a appris au cours de cette audience en juillet, c'est que le constat de Dominique Simoneau, la CGLPL, avait pas varié sur par rapport au constat qui avait été fait dans les années précédentes, concernant notamment les problèmes de surpopulation et aussi un tas d'autres aspects de la vie matérielle des détenus. L'intimité des sanitaires reste un problème. Il y a toujours des problèmes de moisissures, de cafards, de rats, de déchets aux alentours des bâtiments, un défaut d'entretien du matériel, notamment sanitaire, dans les cellules. Si on se penche plus particulièrement sur la surpopulation, donc en 2025, on a 1392 personnes qui sont incarcérées à la prison de Saïs, ce qui fait qu'on a dans le quartier des femmes 210%, un taux d'occupation de 210%, et chez les hommes de 218%. Comme on l'a précisé tout à l'heure, il y a 322 personnes qui dorment sur un matelas au sol. Dominique Simoneau, elle a vu ces personnes. Il y a des photos dans son rapport, notamment des photos de femmes enceintes qui dorment au sol. Face à ça, on a une administration qui commence par nier l'existence de ces femmes qui dorment sur des matelas au sol en disant que non, ces femmes, elles sont dans des cellules spéciales, nurseries, etc. Le reste, il y a quand même 322 personnes, donc ça, on peut pas les éliminer. Et donc, concernant les autres personnes, l'administration précise que finalement, ces gens qui dorment par terre, c'est pas si grave parce que ce ne sont pas des personnes vulnérables, ni âgées, etc. La personne qui représentait la prison a dit que les gens, les personnes de plus de 50 ans et les personnes vulnérables avaient régulièrement le lit du bas dans les cellules, ni le lit du haut, ni le matelas, et que les personnes détenues en cellule avec des personnes de plus de 50 ans proposent généralement le lit du bas au profit d'un matelas au sol. Donc en fait, tout va bien, tout ça est bien géré grâce aux détenus manifestement, pas grâce aux autres. Face à cette situation qui est quand même extrêmement problématique, en face, le juge condamne l'administration pénitentiaire et le ministère de la Justice. Mais finalement, ce qu'il peut faire, c'est une injonction pour que la prison procède à un recensement des détenus présentant une vulnérabilité liée à l'âge, au handicap ou à un état pathologique, et qui prenne toute mesure de nature à éviter que ces détenus dorment sur un matelas posé à même le sol. Donc on a les mêmes injonctions qui produiront sans doute les mêmes effets. Et on voit que donc, non seulement une justice qui est assez impuissante, mais que d'autre part, toutes les preuves qui ont été apportées ne sont pas relevées non plus par le juge, et que finalement, en face, l'administration pénitentiaire peut raconter absolument n'importe quoi, même face à une autorité indépendante, même face à des photos, à des témoignages de détenus.
Ce qui est aussi assez frappant, c'est que finalement, les mesures semblent absolument dérisoires, et ça s'explique en fait aussi par le fait que l'office du juge administratif est extrêmement limité. En fait, il n'a pas le droit de prendre des mesures structurelles, de prendre des mesures qui relèveraient d'une politique pénale plus générale, ou même de la manière dont est gérée la prison. Donc les injonctions qu'il a le droit de prononcer doivent être exécutables très rapidement, voilà, et ne pas être structurelles, comme on disait. Donc, en fait, on commence à voir là, et on va continuer avec les sujets qu'on va aborder après, qu'Elonor va aborder ensuite, on commence à voir en fait que quand bien même il accepterait de prononcer ces injonctions, celles-ci ne peuvent être que incroyablement limitées face à l'ampleur de l'indignité des conditions de détention.
Et d'ailleurs, c'est aussi un autre argument de l'administration en permanence, c'est que finalement face à tous les constats qui sont posés par Dominique Simoneau, c'est de répondre « Ah, mais ça, en fait, on n'y peut rien, c'est structurel. » Et ça concerne effectivement le nombre de détenus, ça concerne aussi les problèmes d'hygiène, que ce soit les moisissures dans les salles de bain ou « Bah non, c'est un problème structurel, les portes dans les toilettes, etc. » Et donc, autre problème récurrent à Saïs, ce sont les nuisibles, donc des rats et des cafards. Alors les cafards, on nous dit qu'ils pullulent dans les cellules à tel point que certains détenus dorment la lumière allumée ou se mettent du papier dans les oreilles, tellement ils ont peur que les cafards rentrent dans leurs oreilles. Face à ça, la défense de l'administration, c'est de dire que, un, il y a des sacs poubelles qui sont distribués régulièrement, que, deux, il y a une fiche sur l'hygiène qui est affichée pour que les détenus soient informés de comment on tient sa cellule, et que, surtout, il y a des opérations régulières de désinsectisation et notamment des distributions de pièges dans les cellules.
Une fois par mois, disent-ils.
Une fois par mois, disent-ils. Or, ces pièges, ni la contrôleuse des prisons, ni le bâtonnier, dont la visite est intervenue pourtant quelques jours après la distribution de ces pièges, la soi-disant distribution de ces pièges, n'ont vu ces pièges. Donc, on est quelque part en flagrant délit de mensonge de l'administration. Et face à ça, eh bien, on a un juge qui ordonne de procéder à un réapprovisionnement généralisé des cellules dépourvues de sacs poubelles, et de vérifier l'affichage systématique dans les cellules de la fiche de sensibilisation aux gestes, gnagnagna, pour lutter contre la prolifération des nuisibles. Et même, on a un juge qui souligne que des mesures ont été adoptées par l'administration et que ces efforts doivent être poursuivis. Mais en gros, on est face à un juge qui croit que des pièges ont été distribués, alors qu'il y a toujours des cafards, alors que personne n'a vu la réalité de ces pièges et que les détenus eux-mêmes nient leur réalité.
Ce qui est hallucinant, c'est que, avec la sellette ou dans ta page, des fois on parle des audiences de comparution immédiate et tout ça. Mais si on voyait un prévenu se défendre aussi piteusement que se défend l'administration pénitentiaire, on se dirait mais il va au carton, il va se faire massacrer. Là, on a quand même la représentante de la direction de SEIS. On a le bâtonnier qui dit « moi je suis passé le 17 juillet par exemple ». Et on nous dit que les pièges ont été distribués le 15. J'y suis allé, moi, dans les cellules. J'ai été dans 3 cellules. J'ai pas vu de piège à cafards. Voilà ce qu'il dit à l'audience. Et l'administration pénitentiaire dit alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'y suis retourné le lendemain. Et on n'avait pas vu, mais il y avait des pièges.
C'est très grossier.
Qu'est-ce que c'est que cette défense? Et on a un juge qui dit « Ok, ils ont l'air de faire ce qu'ils peuvent et qui fait retomber. » En fait, ça, c'est aussi le discours de l'administration pénitentiaire qu'elle va avoir sur d'autres sujets, mais qui fait retomber aussi ça sur les détenus. Parce que ce qu'il faut, c'est une meilleure campagne de sensibilisation pour le traitement des déchets, etc. Alors, c'était pas à l'occasion de cette procédure, mais il y a quelques années, la question s'est posée, la question se pose toujours, des cafards, etc., etc. L'administration pénitentiaire avait répondu sans rire qu'elle faisait tout ce qui était en son pouvoir, bien évidemment, pour éviter la prolifération de ces nuisibles, et notamment qu'elle avait répondu à un appel d'offres pour organiser un escape game dans les cellules, en mode tri tes déchets et attention, la fin dans le monde, c'est à cause des gens qui tripaient les déchets. Donc les détenus étaient non seulement responsables des cafards qu'il y avait dans leurs cellules, mais peut-être même de la fin dans le monde. Donc par ailleurs, c'est quand même assez fou cette idée d'organiser un escape game dans une prison. Enfin, voilà, c'est tout ça pour dire voilà, en fait, c'est un peu désarmant parce que on a l'impression qu'ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ils seront crus et on va considérer que ça va, quoi.
Et aussi parce qu'il n'y a pas d'obligation de résultat. Parce que là, ce que le juge administratif a dit en substance sur plusieurs de ces points, c'est ils ont visiblement fait des efforts. Ils se sont donné du mal, parce que l'administration pénitentiaire a montré des devis, me semble, qu'ils avaient fait avec des entreprises pour une dératisation, ce genre de choses. Mais le fait est que devis, passage d'entreprise, pas passage d'entreprise, ça pullule de cafards et de rats. Donc le fait qu'il n'y ait pas d'obligation de résultat est quand même un problème.
Voire un encouragement, parce que sous réserve que les efforts engagés donc continuons dans la même dynamique, même si finalement ça ne sert à rien, et il y a seulement lieu d'enjoindre l'administration, encore une fois, à procéder à des trucs à des distributions de sacs poubelles. Donc effectivement, on est même dans un encouragement à continuer des choses dont on a démontré que ça ne servait à rien. Parce que mettons que ces pièges existent, en tout cas, ça ne suffit pas du tout.
Et même si le juge administratif est limité dans le type d'injonction qu'il peut formuler, il pourrait néanmoins faire plus. Exactement. Ouais. Il a la possibilité d'ordonner des astreintes. Donc il pourrait tout dire. Il pourrait, j'imagine, quand même dire que l'administration pénitentiaire doit impérativement se débarrasser des nuisibles sous peine de d'astreinte financière, c'est-à-dire d'obligation de payer jour après jour où les choses ne sont pas exécutées une somme d'argent quotidienne.
Mesure que le juge a rappelé lui-même qu'il pouvait le mettre en œuvre au début de son, comment on appelle ça, de son ordonnance, mais qui n'a pas mis en œuvre. Pour aucune des injonctions demandées, il n'a demandé d'astreinte. Et alors, quand on parlait du rejet de la responsabilité des choses sur les détenus, par exemple, l'exemple des rats est assez extraordinaire, parce que donc on a des rats qui sont aux abords des bâtiments. Et pour le coup, là, on nous dit qu'il y a des opérations de dératisation qui sont menées tous les mois et que l'administration a fait placer des petites réglettes sous les portes pour que les rats ne puissent pas rentrer dans les cellules et dans les bâtiments d'habitation. Et donc, à partir de là, il n'y a absolument rien à faire. Et le juge nous dit que ces nuisibles ne sont pas constitutifs d'une atteinte grave aux droits des... et manifestement illégale aux droits et libertés fondamentaux des détenus. Parce que, finalement, la présence de ces rats s'explique par le fait que les détenus jettent des déchets par les fenêtres de leurs cellules. Et donc, à partir de ce moment-là, eh ben, c'est de leur faute. Donc, ce n'est pas une atteinte à leur liberté. Et donc, il n'y a aucune injonction qui est prise contre l'administration pour régler ce problème de rats.
On rappellera qu'en 2021, quand même, un détenu avait chopé la leptospirose. Mmh. La leptospirose, c'est une de ces maladies médiévales qu'on chope par la pisse de rat. Enfin, c'est... Mais bon, comme c'est les détenus...
Comme ils en sont responsables, voilà.
Donc il y avait l'hygiène qui a été abordée à cette audience, mais il y a aussi d'autres thématiques qui ont été abordées, comme celle des violences qui ont lieu en détention.
Ouais, alors la question des violences est assez emblématique. Effectivement, il y a plusieurs aspects. Il y a la question des violences entre détenus, la question des violences des détenus à l'encontre des agents de l'administration et la question des violences de la part de surveillants contre les détenus eux-mêmes. En 2021, lors d'une précédente visite, la CGLPL avait fait le constat que le logiciel Prince, qui est dédié à répertorier les incidents, en particulier les violences en détention, était peu utilisé par l'administration pénitentiaire, notamment lors d'une nuit. Les observateurs avaient remarqué que plusieurs incidents avaient eu lieu et n'étaient pas systématiquement répertoriés dans le logiciel, contrairement à ce qui devrait avoir lieu. Donc ça, c'était un constat qui avait déjà été fait il y a plusieurs années.
Oui, et il me semble que le juge, d'ailleurs, avait enjoint l'administration à une meilleure prise en compte des faits de violence dans sa prison, et notamment avait enjoint à tracer systématiquement dans le logiciel Prince tout fait de violence.
Oui, et c'est ce qui s'est passé là, dans cette nouvelle ordonnance du 25 juillet. Sur cette question précisément, le juge des référés enjoint l'AP, je cite, à prendre toutes mesures pour renforcer la sécurité des personnes détenues face aux violences commises en détention, et notamment pour garantir l'intervention rapide du personnel en cas de violences commises en cours de promenade ou la nuit en cellule, ainsi que pour mettre en place un programme de lutte contre les violences au sein des quartiers maisons d'arrêt femmes et hommes. Il se pose toujours la question de savoir qu'est-ce que ça amène concrètement, puisque c'est quand même assez général. Il y a un autre point à Seyss qui est assez saillant en ce moment, c'est la question des violences de surveillants à l'encontre des détenus, avec une affaire assez emblématique qui va être jugée d'ailleurs en novembre prochain. Il s'agit en fait de violences commises par un surveillant à l'encontre de plusieurs détenus entre 2024 et 2025. Donc pour résumer un petit peu, c'est un surveillant qui est accusé d'avoir frappé plusieurs détenus, certains d'entre eux en septembre 2024. Et ces détenus-là auraient été frappés donc au parloir, dans une zone qui est dépourvue de caméras. Ces détenus ont été entendus le 18 septembre 2024 par le chef de détention. Pour autant, il ne s'est pas passé grand-chose à ce moment-là. La loi prévoit pourtant qu'un signalement au procureur sur la base de l'article 40 du code de procédure pénale doit être fait dans la foulée. Or, en l'espèce, ce signalement a été fait 2 mois plus tard, donc en novembre. Et surtout, le surveillant en question est resté en poste plusieurs mois après, puisqu'en janvier 2025, un nouveau détenu, donc un cinquième détenu, explique avoir été victime de violences lui aussi. Ça a été évoqué lors de l'audience au tribunal administratif. Ce détenu aurait été, selon son témoignage, frappé alors qu'il était nu dans la zone des parloirs, frappé plusieurs fois à la tête. Et il n'a pas pu voir de médecin dans la foulée. Ce n'est que quelques jours plus tard, lorsqu'il a vu son avocate dans le cadre d'une commission de discipline, que les faits ont été remontés. Donc là, ça pose plusieurs questions. Le surveillant en question, donc une plainte a été déposée par ce détenu-là. Il y a eu deux plaintes déposées sur les cinq détenus victimes. Le surveillant en question a finalement été placé sous contrôle judiciaire par le juge des libertés et de la détention et a été changé de service. Aujourd'hui, il est dans un autre établissement sans contact avec les détenus. Ce qui est important de noter, c'est que ça, c'est pas du tout une initiative de l'administration pénitentiaire, c'est une décision du JLD. Donc là, clairement, on peut se poser des grosses questions sur l'action de l'administration pénitentiaire dans une situation de fait aussi grave, qui clairement n'a rien fait. Lors de l'audience, donc l'ordonnance du juge des référés rendue le 25 juillet dernier, il y a plusieurs points qui sont et qui évoquent cette question des violences. Le juge ordonne l'administration, donc je cite en vrac, à prendre toute mesure pour remédier au manquement à la déontologie et aux actes de violence de certains personnels, à prendre toute mesure pour garantir que toute personne détenue alléguant avoir subi des violences puisse avoir accès sans délai à un médecin pour faire constater ces violences, et à saisir sans délai le procureur de la République sur le fondement de l'article 40 du Code de procédure pénale de tout acte du personnel sur les personnes détenues. Le problème, c'est que ça, c'est déjà dans la loi. En l'occurrence, ça n'a pas été fait. Et on peut se poser la question suivante, c'est « et sinon quoi ?» Puisque, effectivement, il n'y a pas d'astreinte financière, c'est des injonctions assez générales. Donc là, ça pose une vraie question sur cette thématique des violences.
Il y a l'ordonnance du juge, mais il y a aussi ce qui a été dit à l'audience. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Alors, pas sur les violences des personnels, mais sur la question des violences dans la cour de promenade. Il est décrit... par tous les détenus, par leurs avocats et avocates, par le CGLPL, un climat de violence, notamment dans la cour de promenade. On nous dit que plusieurs détenus refusent de s'y rendre, ce qui est quand même un sacré sacrifice quand on sait, et on y reviendra, qu'il n'y a pas d'activité à la maison d'arrêt. La sortie en promenade, finalement, c'est la seule. Sinon, vous êtes 24 heures sur 24 dans votre cellule. Et ils disent ne pas y aller parce qu'ils ont peur des violences qui y sont commises. Et là... la direction de SAIS répond « Ah bah oui, mais c'est sûr, je vais pas envoyer un de mes surveillants au milieu de 50 détenus s'il y a une bagarre. » Donc, en fait, elle dit devant le juge « Oui, je ne vais pas protéger les détenus en train de se faire tabasser. » Enfin, c'est comme ça qu'on le comprend aussi. Et ça je trouve ça ouf. De la même manière, elle dit on fait tous les signalements, les fameux articles 40. Alors, l'article 40, c'est celui qui impose à une autorité administrative de saisir le procureur de la République si, à l'occasion de ses fonctions, elle constate une infraction. Or, on sait, est-ce que tu disais, Clément, que ça n'a pas été fait. Et finalement... face à ça, le juge donne raison et ordonne des mesures qui va être quand même très très difficile de voir l'effet qu'elle pourrait avoir.
Et la question des violences, en fait, ça pose très fortement la question de l'administration de la preuve. Comment les détenus peuvent-ils prouver les violences qu'ils subissent ? Parce qu'en vérité, on ne les croit jamais. La preuve peut être difficile à faire sortir, même si cette violence est une réalité que chacun connaît. Et des preuves, malgré tout, il y en a. Témoin cette interview d'un surveillant pénitentiaire qui dénonce la violence de ses collègues, dont on va vous lire un morceau et qui est particulièrement éloquente.
Alors c'est une interview que c'est France 3 Occitanie qui a interviewé donc ce surveillant qui dénonce cette violence. Alors on n'a pas pour l'habitude à Tapage de donner voix au maton, mais là...
ça sera moi.
cette interview est quand même assez éloquente. Donc France 3 lui demande « Qu'avez-vous pu remarquer dans les différents établissements où vous avez travaillé ?»
J'ai pu voir à plusieurs reprises dans ma carrière des coups et blessures. Je n'ai jamais rien dit parce qu'il y avait toujours cette peur d'être pointé du doigt par les autres collègues. En tant que surveillant, on sait où il y a des caméras ou pas. Car il y a des endroits où on n'a pas le droit de filmer légalement. C'est dans ces endroits-là qu'il se passe certaines choses avec certains surveillants. Parce que tous les surveillants, évidemment, ne sont pas comme ça.
Peu de surveillants parlent de ce qu'ils voient. Est-ce qu'on peut parler d'omerta dans le monde pénitentiaire ?
Absolument. Parce que s'il y a une affaire qui sort dans la presse, ce n'est pas bon du tout pour les directions. Donc ils vont faire tout leur possible pour étouffer l'affaire. Je sais que beaucoup de collègues voudraient dénoncer ce genre de fait ou d'autres faits qu'on peut voir. Ils ne le feront pas. Parce qu'ils ont peur de la direction. Ils ont peur de ne pas avoir le poste qu'ils veulent plus tard. La mutation qu'ils veulent, d'évoluer, de devenir chef. Donc ils savent parfaitement que s'ils parlent, leur évolution passe à zéro.
Est-ce qu'il y a aussi une pression sur les détenus ?
Pas de la direction tout en haut, mais en dessous, par les gradés. La pression, elle s'exerce tout simplement en disant aux détenus, si tu déposes plainte, ton double parloir, plus long avec ta famille, sera annulé. Ton travail que tu as demandé, tu n'auras pas de travail. Parce que ceux qui valident ces demandes-là, ce sont les officiers, les chefs des bâtiments et tout le reste.
Du coup, on voit que les détenus, effectivement, peuvent très difficilement parler sans encourir, des problèmes très importants ou une suppression de choses comme des parloirs ou des choses aussi importantes que ça. Mais par ailleurs, le fait est que quand ils parlent, on ne les croit jamais. Et là, on retrouve une caractéristique traditionnelle de la justice, de cette administration. Et c'est ça qui est un peu frappant dans tout ce dont on vous parle là, c'est que là, pour prouver des choses que malgré tout, tout le monde sait que le détenu condamne sans arrêt, il faut s'en référer à quoi ? Il faut s'en référer à un rapport de la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, il faut s'en référer à la visite du bâtonnier, il faut s'en référer à la dénonciation, au témoignage d'un surveillant. Mais en vérité, toutes ces choses-là qui sont dites et dans ces rapports et par ce surveillant sont des choses que les détenus eux-mêmes dénoncent quotidiennement.
Et on dénonce depuis longtemps. Enfin, il y a des relais à l'extérieur, comme le journal L'Envolé, comme d'autres, qui se font l'écho de ces voix qui ne sont jamais écoutées, bien entendu. Et sur cette question d'administration de la preuve, c'est, je trouve particulièrement saillant dans ce qui concerne les activités, tout ce qu'on nomme les activités en détention, qui était une des thématiques aussi qui a été abordée à l'audience, et où là aussi l'administration pénitentiaire a fait preuve quand même d'une défense assez lamentable.
Alors, sur la question des activités, le rapport de Dominique Simoneau montre que les détenus passent en gros 22 heures sur 24 dans leur cellule, parce que déjà, il n'y a pas assez de personnel pour assurer toutes les sorties type activité, promenade, ils doivent choisir des fois, que même pour aller en soins, etc., pareil, il n'y a pas forcément de personnel pour les faire sortir des cellules. Le travail, il y en a très peu, ça concerne que 16% des détenus. Après, selon l'administration pénitentiaire, c'est aussi un peu de leur faute, parce que la main-d'œuvre pénitentiaire est plus si intéressante que ça. Donc voilà.
Il faut plus les payer maintenant.
Qu'elle a osé dire à l'audience.
Je le dis parce qu'effectivement, elle l'a dit à l'audience, un peu en moyen de défense. Bon, ben, on fait ce qu'on peut, mais bon, vous voyez, ils sont plus si intéressants que ça. Donc voilà. Bref, la formation professionnelle, c'est 32 femmes pendant l'année 2024 et 8 hommes. On a 1300, 92 prisonniers. Et le sport, visiblement, il y a 7% des détenus qui ont accès à des sessions de sport. Cette situation, elle a toujours été notée dans les rapports successifs du CGLPL. Et elle se dégrade à chaque rapport. Elle s'est notamment dégradée cette année en 2025 parce qu'un certain nombre d'activités ont été supprimées suite à une instruction donnée par le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, en février 2025.
Ouais, Gérald Darmanin qui est ministre depuis à peu près un mois et demi, je pense. C'est une des premières manifestations qu'il a de montrer qu'il sera tout aussi répressif et proactif qu'il l'était en tant que ministre de l'Intérieur. Il fera la même chose à la justice. Il a fait la guerre aux quartiers populaires en tant que ministre de l'Intérieur. Il annonce très clairement qu'il fera la guerre aux détenus sous son mandat de ministre de la Justice. Et en fait, tout va partir de Seyss. Tout va partir de la maison d'arrêt de Seyss, et plus précisément du syndicat Force Ouvrière de Seyss, des gardiens, qui va sortir un tract. Les mots me manquent et la radio ne nous permet pas de diffuser des images pour voir la laideur indescriptible de cette chose. Mais bon, Service à domicile, le syndicat local Force Ouvrière Justice Seis est indigné par la prochaine gratuité mise en place pour la population pénale le jour de la Saint-Valentin. Et oui, ces messieurs les détenus et ces mesdames les détenus pourront profiter de soins du visage gratuitement. Alors que ce sont des gens qui ont commis des crimes, des viols, etc. Et tout ça, nous dit-on, avec l'argent de vos impôts, c'est un manque de respect total, etc. Ce tract, il est sorti le 12 février 2025. L'information, elle est aussitôt reprise par le quotidien régional de référence, La Dépêche du Midi. Et là... c'est le petit tollé, ça va être repris dans les dépêches, ça va faire un petit peu le tour de France. Et ça va remonter à ce bon vieux Gérald qui, 4 jours plus tard, devant Condé-sur-Sarthe, va déclarer qu'il allait prendre des mesures pour demander l'arrêt immédiat des activités ludiques et provocantes. Voilà. Ludique et provocante. Alors, ce qu'il y a quand même de fou dans cette histoire, c'est que absolument tout ce qu'il y a dans le tract de FO est mensonger. C'est-à-dire que cette activité, elle a jamais été prévue particulièrement pour la Saint-Valentin, c'était un hasard de calendrier. Cette activité, elle était absolument pas payante, c'est-à-dire que les impôts n'ont jamais financé cette activité. Cette activité ne consistait pas en des soins du visage, mais des étudiantes, je crois, en esthétique, ou qui se proposaient de montrer aux détenus comment prendre soin de leur visage dans un souci de rétablissement de l'estime de soi, qui paraît brutalement mise à mal dans cette prison en particulier. Évidemment, ça ne concerne pas de détenus dont on peut dire qu'ils ont commis des viols, des actes de torture ou des meurtres, parce que c'est une maison d'arrêt et que il n'y a que des gens soit qui ne sont pas encore condamnés, qu'on ne peut pas dire qu'ils sont coupables, soit des gens pour qui le reliquat de peine est inférieur à 2 ans, donc a priori pas des meurtriers, pas des terroristes ou des violeurs qui sont rarement condamnés à 2 ans de prison. Donc voilà. Tout ça est absolument faux, et il suffisait d'un coup de fil, je pense, de la chancellerie à la maison d'arrêt de Seis, coup de fil qui a dû avoir lieu, hein, par ailleurs. C'est-à-dire que Gérald Darmanin, quand il dit ça le 17 février, il sait pertinemment que tout est faux. Mais l'effet que ça va avoir, c'est que ça va tous les établissements pénitentiaires de France tétaniser par leurs ministres, vont suspendre toutes les activités, afin de savoir si oui ou non elles peuvent être considérées comme ludiques ou provocantes. Qu'est-ce qu'une activité provocante, par ailleurs, on ne sait pas trop. Et donc c'est un arrêt brutal de toutes les activités. Dans les conditions de suroccupation, de violence, avec les nuisibles, etc., et de violence dans les cours de promenade, ça veut dire, pour le détenu, plus d'opportunité de sortir de sa cellule qu'il partage avec 2 personnes dans 9 mètres carrés. Et alors l'OIP avait combattu cette instruction devant le Conseil d'État. Et en mai 2025, le Conseil d'État a censuré cette instruction de Darmanin. D'accord. Or, ce qu'on constate, c'est que les activités, en tout cas à la maison d'arrêt de Seis, c'est ce que dit l'OIP, ce que constate le bâtonnier, etc., elles n'ont pas repris. C'est-à-dire qu'on a une décision de justice qui annule l'instruction de Gérald Darmanin, mais les directeurs d'établissement ne remettent pas en place les activités, ce qui est quand même assez hallucinant. Et ils ont essayé de dire le contraire à l'audience. C'est-à-dire qu'à l'audience, des tableaux...
Alors effectivement, à l'audience, on a une administration pénitentiaire qui dit que non, il y a une très large palette d'activités qui est proposée, elle en cite, hein, des ateliers d'écriture, de dessin, tout ça. Et finalement, toujours la même chose, qui croire? Et donc pour ça, l'administration pénitentiaire a fourni un tableau des activités.
Oui, alors voilà, on a un listing qui ne dit pas grand-chose, qui est non daté, qui est pour le coup purement déclaratif. Il n'y a aucune preuve sur quelles associations éventuellement sont rentrées en détention, quel type d'activité, quels détenus ont pu participer à ces ateliers-là. Donc il n'y a absolument rien de fourni, si ce n'est juste un listing avec des noms d'activités. Et ça suffit à l'administration pour dire si c'est bon, on a repris. Donc voilà, donc sur la question de l'administration de la preuve, c'est très très léger.
Et Par exemple, sur l'ouverture de la salle de sport, c'était assez impressionnant parce que la pièce qu'ils avaient amenée pour prouver que la salle de sport était accessible à tous les détenus, c'était une note de service qui datait de décembre 2023 sur lequel il y avait indiqué qu'il fallait des baskets, une serviette pour se servir des machines. Je vois pas comment un papier pareil pourrait prouver que cette salle est effectivement ouverte et accessible à qui veut. Enfin,
et c'est un argument de l'administration, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a une salle de muscu qui est accessible du lundi au vendredi aux détenus.
Et que de la même manière, pour les bibliothèques, ils nous ont sorti un emploi du temps d'ouverture de la bibliothèque.
Ouais, alors si on regarde ce document, c'est à la fois drôle et édifiant, puisqu'on voit par exemple un planning donc, qui concerne le mois de juin 2025, qui indique le nombre de personnes qui sont venues à la bibliothèque, donc les visiteurs, avec indiqué 2 plus 4. Donc ça fait 6 visiteurs. Le petit problème, c'est que pour le mois de juin, ce tableau a été rempli à la date du 3 juin 2025. Donc on savait déjà le 3 juin combien de visiteurs sont venus sur l'ensemble du mois de juin. Si on parcourt un petit peu les pièces, donc il y a plusieurs... Il y a plusieurs documents concernant toujours la fréquentation de la bibliothèque. Pour le mois de mai, on a donc 12 visiteurs, donc 12 personnes qui sont venues, 19 emprunteurs, donc on ne comprend pas très bien, il n'y a pas tellement d'explicatifs sur à quoi correspondent ces chiffres, 62 prêts. Voilà, donc en fait, c'est des documents dont on peut quand même s'interroger sur... la véracité, la pertinence, et ce sont les seuls documents fournis comme ça, sans mémo, sans explication par l'administration.
Et puis quasi ça prouverait l'inverse, parce que nous dire qu'il y a 12 personnes qui sont venues en mai en maison d'arrêt homme qui doit contenir plus de 1000 détenus, alors je veux bien que tout le monde n'aime pas lire, mais enfin ça me paraît quand même très faible, ça laisse suggérer qu'en mai ça a été ouvert 3 heures.
Bien sûr, et ce qui à l'appui de cette hypothèse, il y a les chiffres de fréquentation de la maison d'arrêt pour femmes qui elle apparemment a pu être la bibliothèque de la maison d'arrêt pour femmes a pu être ouverte de manière beaucoup plus importante, et les chiffres de fréquentation sont incroyablement plus importants alors qu'elles ne sont que entre guillemets 80 femmes incarcérées.
Et puis la direction, Éléonore, tu rappelais les chiffres là, de formation professionnelle du CGLPL. La directrice, quand elle est entendue là-dessus, elle dit quand j'entends ces chiffres-là, ça m'étonne.
Elle met en doute notamment le fait qu'il n'y ait que 32 femmes qui aient pu bénéficier
mais
de formation professionnelle.
Ça, c'est à rendre fou. Enfin, je veux dire, Dominique Simoneau, elle ne les a pas inventées. Elle est venue. Ça dure plusieurs jours, hein, une visite d'un établissement. Elle a certainement été reçue d'ailleurs par cette directrice adjointe notamment. Les recommandations d'urgence, elles ont été publiées le 8 juillet. Et là, fin juillet, elle dit à l'audience « Oh bon, ce chiffre-là, non, vraiment, ça m'étonne. » Enfin, c'est vrai que les...
Mais à ce niveau-là, c'est même plus de l'amateurisme, c'est de la mauvaise foi et c'est vraiment du foutage de gueule.
Ouais, c'est de l'indifférence.
Alors, sur les bibliothèques, il y a un côté aussi ceinture et bretelle, parce que du coup, elle commence
ceinture
par...
Ceinture et bretelle.
Double protection.
Ah, je vois.
Pardon.
Je ne connaissais pas.
Et l'administration commence par rappeler que, de toute façon, les mesures qui concernent l'ouverture des bibliothèques, c'est structurel.
Ouais.
C'est pas de leur faute. Mais de toute façon, elles fonctionnent. Et elles sont ouvertes puisqu'on nous fournit les tableaux. Donc il y a vraiment ce côté-là, de tous les côtés, je suis couverte. Ouais. C'est bon.
Et sur les questions de l'annulation des activités suite au décret de février 2025 qui est jamais remis en place, en plus ce qui est frappant, c'est que quelque part, il aurait suffi d'un malheureux coup de fil à ces associations pour savoir si oui ou non elles avaient interrompu leurs activités en détention. Donc ce que les avocats ont fait, mais in extremis, et dont les résultats n'ont pas pu être utilisés pendant l'audience, parce que l'administration pénitentiaire a envoyé ses pièces la veille de l'audience, je ne sais plus si ce qu'on a entendu, mais entre 20 et 22 heures. Donc quand bien même les avocats et avocates ont contacté les associations pendant la nuit pour savoir si elles avaient interrompu leurs activités, les réponses n'ont été données que quelques jours plus tard, c'était déjà trop tard pour l'audience.
Alors on voit bien malgré tout que concernant l'audience justement, le juge n'est pas dupe sur ce point, puisque dans son ordonnance, il indique que si l'administration fait valoir que le plan d'activité de l'établissement a été validé le 14 mai, que les bibliothèques d'établissement sont ouvertes, etc., les pièces produites sur ce point, complétées par les déclarations des représentants de l'administration à l'audience, n'établissent pas que les activités proposées aux détenus auraient repris leur cours normal ou que les bibliothèques dont on parlait, des maisons d'arrêt hommes, qui n'apparaissent ouvertes que quelques jours par mois, soient en mesure d'accueillir effectivement des détenus. Donc sur le constat, le juge a plutôt une vision ouais. lumineuse de la situation.
Il prononce effectivement les injonctions demandées. Après, moi, j'avoue que ça m'a paru comme pure chance. Enfin, ça m'a semblé tellement aléatoire et arbitraire. Pourquoi là ? Est-ce qu'il a cru les avocats et qu'il a prononcé ses injonctions ? Sur d'autres points qui me paraissaient ni plus ni moins prouvés par l'administration pénitentiaire, il a donné raison à l'administration pénitentiaire. Pour moi, c'est pas du tout clair.
C'est vrai qu'on se demande parfois si c'est pas tiré au dé. C'est
très hasardeux.
Bah, ouais. Sachant que finalement, les injonctions, comme d'habitude, qui ont été proposées, quelle possibilité de vérifier que ce sera mis en place. Ouais. Alors que finalement, concernant, je pense à ces histoires de nuisibles, par exemple, là, il y avait peut-être des choses facilement vérifiables qui auraient pu être. On aurait pu enjoindre l'administration de faire des choses facilement vérifiables, et là, ça n'a pas été fait. Là, on a cru l'administration sur cette distribution de pièges de cafards, etc. On n'aura pas demandé à les distribuer effectivement pour la semaine prochaine. Et voilà, alors que là, on dit, bon, faut prendre toutes les mesures comme d'habitude.
Ouais. Et au final, du coup, on se demande quel effet tout cela va avoir, vu l'effet quand même tout relatif de la condamnation de 2021. On a plusieurs injonctions, le juge les rejette en disant qu'elles sont structurelles. Certaines qui sont prononcées, et je trouve que ce qu'il y a de saisissant quand on lit ces ordonnances, elles sont accessibles en ligne, et puis on pourra mettre un lien, c'est qu'on a un juge qui constate, parce que c'est ce que Marine disait au tout début de l'émission, un référé liberté, c'est une atteinte grave à une liberté fondamentale et auquel il faut répondre de toute urgence. Et le juge dit, il y a des traitements inhumains et dégradants dans la maison d'arrêt de Seyss. Il y a des conditions inhumaines de détention indignes dans la maison d'arrêt de Seyss. Donc, je demande à ce que des sacs poubelles soient distribués. Ça, entre le constat de l'indignité qui est fait et les mesures qu'il prononce, il y a vraiment une séparation il y a un fossé qui est vraiment énorme. Surtout quand on se demande qu'est-ce qui se passe si Seyss ne fait rien.
Oui. Et d'autant que, alors, il y a plusieurs rapports du CGLPL, mais aussi, finalement, ce juge, c'est pas la première fois non plus qu'il juge une affaire qui concerne Seyss. Et donc, lui-même, il est en première place pour savoir que ça n'a servi à rien, les injonctions qu'il a proposées, prononcées les années précédentes. Du coup, on se demande effectivement quel est le sérieux, finalement, de ce genre de... d'ordonnance.
Alors après, lui-même raisonne peut-être de la manière suivante, à savoir, si je leur donne plus, je vais prendre un appel devant le Conseil d'État. Il n'est pas impossible que le Conseil d'État considère que les mesures sont structurelles. Et du coup, il n'y aura plus rien. Donc on est... Voilà. Mais c'est sûr que, autant je pense... Ce genre de procédure, c'est important qu'elles soient menées parce qu'elles amènent. Je pense que c'est jamais agréable pour l'administration pénitentiaire. C'est pas une institution qui aime se justifier.
On l'a remarqué.
Donc être un petit peu sommé comme ça de rendre des comptes et se faire tapoter sur les doigts avec un relatif écho, et tout ça, c'est jamais bon pour eux. Mais sur les effets concrets que ça peut avoir sur les conditions de détention des détenus. Et tu en parlais, Clément, tout à l'heure, vous en parliez, la question de l'astreinte aussi, qui interroge directement ça. Enfin, on voudrait s'assurer que les choses soient faites, on menacerait d'une amende.
Et on va redire là où c'est particulièrement paradoxal, c'est que c'est le ministre de la Justice qui est attaqué. Ouais. Donc la capacité du ministre de la Justice à respecter les décisions de justice semble plus que limite, hein.
C'est une décision du Conseil d'État qui annule l'instruction de Darmanin sur les activités ludiques. Elles ne reprennent pas. Pourquoi ? Vraisemblablement parce que l'administration pénitentiaire ne veut pas déplaire à son ministre qui avait donné cette instruction. Le ministre de la Justice, lui, ne répond pas. Il n'a même pas répondu aux recommandations en urgence de Dominique Simonneau comme il aurait pu le faire. Il y a une... je sais pas si c'est de la désinvolture, je pense que c'est juste du mépris, à ce stade-là. Mmh. Vous êtes toujours sur Tapage 92.2. Alors, à l'heure où on vous parle, Darmanin est toujours ministre des tribunaux et des prisons. On ne sait pas encore ce qui sera le cas dans une semaine ou dans deux semaines. On a vu qu'il s'était illustré par des déclarations, des instructions jugées illégales par le Conseil d'État, mais peu importe, finalement, il s'en fiche, sur les activités en prison. Un de ces grands chantiers, ça a été aussi la loi dite narcotrafic et la réinvention en France et la réouverture au mois de juillet cet été des quartiers de haute sécurité. Alors, ces quartiers de haute sécurité, ils avaient été institutionnalisés, on va dire, au milieu des années 70. Il y avait eu des protestations de détenus, des mouvements de grève, ça avait été relayé. La torture psychologique, quand elle n'était pas physique, qu'on y subissait, avait été documentée, si bien qu'en 81, officiellement, en tout cas, les QHS avaient été abolis. Même si on sait très bien que sous d'autres formes, des mesures d'isolement très très répressives et très très dures ont continué à régner dans les prisons. Là, Darmanin réannonce l'ouverture officielle de quartiers de haute sécurité, dont le premier a ouvert à Vendin-le-Vieil le 31 juillet, je crois, de cette année. Ils ont fait sortir tous les détenus de cette prison et ils ont transféré ailleurs. Ils ont mis des caillebotis supplémentaires aux fenêtres. Ils ont mis des séparations dans toutes les de tous les parloirs, pour que les détenus ne puissent toucher et avoir de contact physique de tout ordre avec les personnes qui les visitent. Ils ont des restrictions d'appel vers l'extérieur. Des détenus, au moins deux de la prison de Seyss, ont été transférés dans l'été à Vendin-le-Vieil. La Dépêche du Midi nous raconte un peu les conditions de ce transfert, c'est-à-dire qu'ils ont été réveillés en pleine nuit. On leur a bandé les yeux, on leur a mis un casque sur les oreilles, c'est de la privation sensorielle, et on les a mis dans un avion militaire en pleine nuit pour les envoyer à Vendin-le-Vieil, brutalement coupés de leurs affaires, de leurs proches qui avaient l'habitude de les visiter à la maison d'arrêt de Seyss. Voilà, ça s'est fait avec cette brutalité. Ils ont été accueillis évidemment par des gens cagoulés, surarmés, il y a eu toute une mise en scène, une dramatisation de cet instant. Il s'agit pour Darmanin de mettre tous les Pablo Escobar de France dans cette prison qui doit en compter plusieurs centaines. Des informations qu'on a, il n'y a pas, malheureusement pour Darmanin, il n'y a pas autant de Pablo Escobar en France qu'il laisse compter, ce qui fait que les informations qui nous parviennent montrent qu'apparemment de plus en plus de gens très hors du profil criminalité organisée, etc., ils sont envoyés. Et il y a eu des recours, un certain nombre de recours des avocats devant le tribunal administratif pour dénoncer cela. Le ministre de la Justice a dit que ces recours étaient grosso modo une atteinte à l'état de droit, les recours en eux-mêmes. C'est ça aussi, hein, c'est quand même des gens qui saisissent la justice pour se plaindre, ben ça serait une atteinte justement à l'état de droit ou à la démocratie. Je ne sais plus exactement quels sont les termes. Et finalement, ça n'a pas traîné, car quelques semaines après l'arrivée des personnes en QHS, bien commencé à y avoir des mouvements de protestation, des mouvements collectifs, des tentatives d'inondation. Un surveillant pénitentiaire d'ailleurs s'indiquait, se vantait d'y avoir pris fin. On a l'habitude de ces choses-là, on le faisait avant, tout simplement on leur a coupé l'eau. Voilà la réponse. Donc ça a eu lieu trois fois à la fin du mois d'août. Donc ça c'était pour insister sur leurs conditions de détention, mais les détenus aussi ont tenu à faire passer un message, c'est-à-dire qu'au-delà de leurs conditions de détention, ce qu'ils ne supportent pas, c'est le sort qui est fait à leurs proches. Et ils ont déclaré se mettre en grève de la faim à compter du 1er septembre donc lundi 1er septembre dernier, et ils ont fait parvenir un communiqué.
Un communiqué qu'on va donc vous lire. Super cartel de Vendin-le-Vielle. Nous, détenus, annonçons aujourd'hui une grève de la faim à compter du 1er septembre 2025. Notre mouvement n'est pas dirigé contre nos conditions de détention, mais contre les conditions inhumaines imposées à nos familles. Nos familles paient le prix fort. Elles parcourent des centaines de kilomètres pour venir nous voir, parfois au détriment de leur santé, de leur travail, de leur équilibre. Au parloir, elles se retrouvent derrière un hygiaphone, dispositif justifié officiellement pour éviter l'introduction d'objets illicites. Pourtant, chacun sait qu'un portique à ondes millimétriques détecte déjà tout objet interdit. Même les surveillants témoignent que ce système sert avant tout à casser psychologiquement détenus et familles. Une mise en scène indigne. Les familles, y compris des enfants, sont accueillies par des agents cagoulés, censés les impressionner. Pourtant, en détention même, les agents ne portent pas de cagoule. Les appels téléphoniques sont limités à deux fois par semaine sur des créneaux restreints, 8h midi, 14h 16h. Or, à 16h, les proches travaillent et les enfants sont à l'école. Rappelons que nos proches n'ont commis aucune faute. Ils ont un casier vierge, ils paient leurs impôts et n'ont évidemment aucun numéro d'écrou. La vérité contre les mensonges. Nous ne sommes pas violents avec les agents. Seuls quelques individus isolés et déséquilibrés le sont. La vérité, c'est que les agents sont sous-effectifs et non 250, comme l'affirme le ministre de la Justice, M. Gérald Darmanin. Darmanin ment. Le délégué syndicat David Lacroix ment. Notre position. Votre rêve est de nous pousser à la violence. Nous ne tomberons pas dans ce piège. Notre résistance sera pacifique mais déterminée. Le 1er septembre 2025, nous entamerons une grève de la faim pour défendre la dignité de nos familles. Bah, du coup, on leur envoie effectivement toutes nos forces.
Et on suivra de très près, évidemment, autant qu'on le peut, et on relaiera autant qu'on le peut aussi ce qui se passe là-bas.
Et c'est la fin de cette émission. Donc on se retrouve le mois prochain, le deuxième jeudi de chaque mois, pour une nouvelle émission de Tapage.
On rappelle que si vous voulez nous écrire, c'est possible.
Ah oui,
vous pouvez nous écrire à Tapage, Canal Sud, 40 rue Alfred Duméril, 31-400, Toulouse.
Et là, vraiment, ça nous ferait très plaisir.
Ah, on adorerait ça.
Ça nous ferait très, très plaisir.
Et vous pouvez aussi écrire à France Inter pour leur demander de débaptiser une de leurs émissions de rentrée qui s'appelle Tapage, si vous pouviez leur indiquer que le créneau est déjà pris. Peut-être qu'on gagnera ensemble des millions d'euros pour ça.
Vous pouvez d'ailleurs aussi nous suivre sur Spotify, où on poste toutes nos émissions, ou réécouter cette émission sur le site de Canal Sud.
Il n'y a qu'un seul Tapage, sur Canal Sud, 92.2.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Comme le juge avait mal mangé, le premier prévenu fera un an de prison pour un porte-monnaie volé à une dame dans la rue qui sortait de sa maison. Pas de chance, pense l'avocat, on serait tombé lundi ou mardi dernier. Mon client, c'est sûr, s'en serait mieux tiré. Quand même un an, c'est un peu exagéré. Comme le juge avait mal mangé, le deuxième prévenu fera 2 ans de prison. À 20 ans, quelle idée d'emprunter la DS à injection d'un haut fonctionnaire en fonction. De chance, pense l'avocat. Monsieur le juge, j'aurais mieux digéré. Mon client, c'est sûr, s'en serait mieux tiré. Quand même 2 ans, c'est un peu exagéré. Comme le juge avait mal mangé, le troisième prévenu fera 4 ans de prison. On ne vole pas quand on est étranger, sans permis de séjour et sans qualification. Comme le juge était fatigué, le dernier prévenu ira dormir en prison. Il attendra pour être jugé
quelques jours ou quelques mois. Question d'organisation. Tida da di 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 do da, do do da di do da, do do ti da di do da. Tida da di 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 do da, do do da di do da, do do ti da di do da. Tida da di 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 do da, do do da. Da do do da di da da di da da di 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 da da do do da di da da do do da di da da.